autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, sous le signe de la lumière et de la transmission aujourd'hui. Rencontre avec le prix Nobel de physique, Claude Cohen-Tanucci, qui nous fait l'honneur et le plaisir de sa présence pour partager son itinéraire hors du commun, celui d'un gamin de Constantine, devenu l'un des plus éminents physiciens du monde quantique, des interactions entre matière et lumière, du refroidissement des atomes par laser, ce qui lui a donc valu en 1997 le prix Nobel. Pourquoi et comment Claude Cohen-Tanucci s'interroge encore à 86 printemps et en toute humilité dans un ouvrage inspirant dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, sous le signe de la lumière, itinéraire d'un physicien dans un monde quantique, publié chez Odile Jacob avec une belle idée derrière la tête, celle de transmettre son expérience et ses intuitions de chercheur et de professeur, une passion généreuse pour la recherche qu'il tient de ses maîtres, à qui il rend hommage, comme évidemment Alfred Kastler, lui aussi prix Nobel de physique, une passion que Claude Cohen-Tanucci a aussi réussi à transmettre à ses élèves et notamment à Serge Haroche, lui aussi lauréat du prix Nobel de physique, rien que ça. Autour de la question comment apprivoiser la lumière, bienvenue pour une belle leçon de vie dans un monde quantique.
Claude a vraiment eu une influence énorme sur moi. En fait, si j'ai commencé à faire de la physique quantique dans les années 60, lorsque je suis arrivé à l'école normale, c'est parce que j'ai été vraiment fasciné et ébloui par sa présentation de la mécanique quantique que j'ignorais complètement. Et ça m'a vraiment donné envie de travailler dans ce domaine. Donc je lui dois beaucoup.
Bonjour Claude Cohen-Tanucci.
Bonjour.
Vous avez reconnu bien sûr votre ancien élève, premier élève de thèse, hein, le professeur
premier
Serge.
Premier élève de thèse, oui, c'est Serge Haroche.
Serge Haroche, lui aussi lauréat du prix Nobel de physique, comme vous, et qui rappelait ici même, dans ce studio, ce qu'il vous doit. Un grand merci d'abord de nous faire l'honneur et le plaisir de votre présence en direct sur nos ondes. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de recevoir un prix Nobel. Je sais, Claude Cohen-Tanucci, que vous ne courez pas après la notoriété, que vous n'aimez pas trop vous mettre en avant. Et pourtant, ça fait énormément de bien de vous entendre et de vous lire, de lire l'inspirant parcours qui est le vôtre. Alors, vous êtes né à Constantine, en Algérie, en 1933, dans une famille confrontée à une situation difficile, une famille modeste, on y reviendra. Rien ne vous prédestinait à devenir le formidable chercheur et passeur de sciences, de savoir et d'humanité que vous êtes, prix Nobel de physique, donc pour vos travaux sur le refroidissement et le confinement des atomes par laser, professeur émérite au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, médaille d'or du CNRS, auteur d'ouvrages de mécanique quantique qui sont toujours aujourd'hui d'indispensables ouvrages de référence et bible pour les étudiants. Vous dites vous-même, en introduction de cet ouvrage, que vous avez eu besoin, envie de vous interroger sur cet itinéraire sous le signe de la lumière, Claude Cohen-Tanucci.
Oui, j'ai vraiment senti le besoin de faire un petit peu un bilan et d'essayer de comprendre comment j'ai pu arriver à obtenir les résultats que j'ai obtenus en partant d'un état initial très difficile.
Oui, vous êtes né à Constantine, vous avez ensuite vous avez connu plusieurs fois l'exil entre Constantine,
oui.
Alger et puis la France.
Oui. Mais si vous voulez, ce que je dois avant tout à la réussite de ce parcours, ça a été d'abord mes parents. Mes parents qui ont vraiment consacré tous leurs efforts, qui nous ont donné le goût de l'étude, le goût du travail, le goût de la réflexion, de la modestie. Et puis ensuite, mes rencontres émerveillées avec des professeurs, des instituteurs d'abord, des professeurs de lycée et des professeurs d'université, comme vous avez mentionné Alfred Kastler, qui ont été pour moi un véritable éblouissement. Et là, j'ai eu immédiatement envie d'en savoir plus, de faire de la recherche.
Mais avant, pour faire de la recherche et pour arriver à mener vos études, il a fallu vous démener, vous vouliez faire des mathématiques, mais à un moment, on a même failli, en Algérie, vous priver d'école. En tout cas, on vous a privé de prix à l'époque.
Ça, c'est une sombre époque, une époque de Vichy, où on poussait le cynisme jusqu'à expulser les enfants juifs des écoles, ce qui est une complète scandale, un scandale total. Bon, j'ai pu surmonter ces épreuves. Puis on a été sauvés par les Américains qui ont débarqué à Alger, qui nous ont sauvés d'une déportation probable. Et puis, au lycée Bugeaud à Alger, le lycée où Albert Camus avait fait ses études quelques années auparavant, j'ai eu des professeurs exceptionnels qui m'ont donné envie de faire de la science, des mathématiques, de la physique, et qui ont été pour moi une source d'inspiration considérable, extraordinaire.
Vous citez d'ailleurs, alors c'est en conclusion de votre livre, votre ami, le regretté Michel Serres, génial philosophe des sciences et formidable passeur lui aussi, vous le citez, la meilleure manière de préserver et d'honorer ce que nous avons reçu, c'est de le transmettre aux nouvelles générations.
Là, je crois que c'est vraiment une idée fondamentale. La transmission est une valeur essentielle. Ça ne sert à rien d'apprendre, d'accumuler des savoirs si on n'est pas capable de les transmettre aux autres et de donner aux autres l'envie d'en savoir plus. Je pense que la véritable vocation d'un chercheur, d'un enseignant, c'est cette envie de transmettre ce qu'il a compris aux enfants plus jeunes et de leur donner envie d'en savoir plus.
C'est ce que vous allez faire avec nous au cours de cette émission. Transmission, vous l'avez dit, partage, intuition aussi, générosité, humilité, modestie. Voilà des valeurs qui vous caractérisent, Claude Cohen-Tanoudji, et qui semblent caractériser aussi vos maîtres. Vous l'avez dit, vous avez été l'élève d'Alfred Kastler et de Jean Brossel, qui ont donné leur nom à cet extraordinaire laboratoire, laboratoire de prix Nobel, j'ai envie de dire, l'Institut Kastler-Brossel. Je propose d'écouter, en écho à votre réflexion, ces quelques mots prononcés par Alfred Kastler lui-même à propos de l'obtention de son propre prix Nobel de physique qui lui avait été décerné en 1967, archive INA de 1973.
Les travaux qui m'ont valu le prix Nobel ne sont pas les travaux d'un homme, mais sont les travaux d'une équipe. Et c'est mon collaborateur Jean Brossel qui a la part du lion dans cette équipe. Mais tous les autres jeunes aussi ont apporté une part extrêmement substantielle au travail d'ensemble.
Alors vous faites partie de ces jeunes, Claude Cohen-Tanoudji, cité par Alfred Kastler en 1973 à propos de son prix Nobel. Il cite évidemment aussi Jean Brossel, il dit qu'il a la part du lion. Là encore, moi ce qui me fascine chez cette, on va dire, filiation de prix Nobel, on a entendu Serge Haroche, donc votre élève, vous-même Claude Cohen-Tanoudji et Alfred Kastler, c'est l'humilité, la modestie, c'est un travail collaboratif, mais c'est étonnant de l'entendre à ce point-là, de que vous l'incarniez à ce point-là finalement.
Moi, je peux témoigner du fait que quand Alfred Kastler a reçu le prix Nobel en 1966, tout le monde était bien sûr très heureux. Et lui-même était très heureux. Mais il était terriblement malheureux que Brossel n'ait pas été associé. Je pense très sincèrement que le jury du prix Nobel a fait une erreur en n'attribuant pas également le prix Nobel à Jean Brossel parce qu'il avait participé à tous les travaux. Mais là, j'ai vraiment senti la modestie Alfred Kastler, qui voulait absolument que l'honneur qu'il recevait soit partagé par ses collaborateurs, en particulier Jean Brossel, et aussi par tous ses élèves.
C'est ça.
Ça a été une leçon de modestie et de reconnaissance.
Qui vous a influencé aussi, enfin, quand vous-même avez reçu le prix Nobel, vous avez pensé à lui,
aussi, j'imagine. Je voulais aussi mentionner, vous avez mentionné deux maîtres que j'ai eu, Alfred Kastler et Jean Brossel. Je voulais aussi mentionner Anatole Abraham, qui était aussi une personnalité différente d'Alfred Kastler. Il était beaucoup plus expressif, mais qui était aussi un très grand physicien, quelqu'un de très généreux, de très intelligent.
Quelle était la particularité de ce laboratoire, Kastler-Brossel, dans lequel vous avez poursuivi les travaux de Kastler et Brossel, dans lequel ensuite Serge Haroche a poursuivi aussi vos travaux? Quelle est la particularité de ce laboratoire?
Je pense que c'était dû, comme toujours, à l'enseignement. Je pense que l'enseignement, dans tous les domaines, c'est quelque chose de fondamental. Et Alfred Kastler, dans les cours qu'il donnait, quand j'étais élève à l'école normale, tout jeune, avait le talent de susciter l'émerveillement et de donner l'envie d'en savoir plus. Et je pense que ça, c'est une qualité essentielle. Il était capable d'instaurer une atmosphère de curiosité, d'intelligence, de recherche, de comprendre un peu plus, d'aller au-delà de ce qu'on avait entendu.
Aller au-delà, c'est vraiment le cas de le dire dans vos recherches, parce que vous le dites, l'itinéraire d'un physicien dans un monde quantique, d'où vous est venue cette passion pour l'infiniment petit, pour le monde quantique, pour les atomes, alors pas avec des énormes machines, c'est vraiment minutieux dans l'infiniment petit.
Ce qui m'a attiré chez Kastler, c'était l'élégance de ses idées. Il parlait de systèmes très simples, comme vous dites, mais il leur donnait une vie. Il leur donnait une certaine poésie. Je suis très sensible à la beauté d'un concept, d'une expérience, d'une théorie. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'il a été capable donc, d'attirer l'attention des jeunes et de leur donner envie d'en savoir plus.
Sur l'infiniment petit,
sur les atomes,
le lien matière et lumière,
et
c'est
sur,
ça.
Et sur un monde où la mécanique habituelle dont nous avons l'habitude
ne fonctionne plus.
Et j'ai eu la chance aussi de commencer mon travail d'enseignant à une époque où la physique quantique ne faisait pas encore partie des programmes d'enseignement. Et j'ai eu la responsabilité pendant plusieurs années d'enseigner la mécanique quantique à l'université. Et j'ai eu des collègues comme Franck Laloé et Bernard Duc qui enseignaient la même chose. Et pour nous, ça a été aussi une aventure extraordinaire que d'essayer de transmettre, d'essayer d'expliquer cette mécanique tout à fait troublante au début.
Contre-intuitive, intransmissible,
qui bouleverse nos concepts habituels. Et là, ça a été aussi une expérience très grande. Je pense que l'enseignement, le désir de faire comprendre aux autres ce qu'on a compris, c'est quelque chose de fondamental, non seulement pour la transmission, mais également pour progresser dans sa recherche.
Ah oui, c'est-à-dire que les deux, votre enseignement, de devoir transmettre, j'ai envie de dire l'indicible, l'impossible à comprendre, vous a aidé dans vos recherches.
D'essayer de le faire comprendre, d'essayer de montrer que c'est pas, qu'on peut arriver à en saisir les mécanismes. Et une autre chance exceptionnelle que j'ai eue dans mon parcours, c'est d'avoir été élu au Collège de France.
Professeur au Collège de France, absolument.
Où d'abord on est mélangé scientifique et littéraire, donc c'est un milieu extrêmement passionnant.
Titulaire de la chaire de physique atomique, c'est ça.
Mais surtout où on doit faire tous les ans un cours différent. Et où les gens viennent vous écouter, non pas pour obtenir un diplôme, mais pour s'instruire. Et tous les ans, vous devez changer votre sujet d'enseignement. Donc ça, c'est une stimulation extraordinaire pour élargir ses horizons. Et je suis persuadé que sans l'effort qui a été nécessaire pour faire passer, j'aurais pas pu aller réaliser les recherches que j'ai effectuées.
Oui, et c'est vraiment faire passer à la fois les recherches les plus pointues et finalement à tout le monde. Hein. Aujourd'hui, les cours du Collège de France sont accessibles à tous sur Internet.
Oui, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose que la France possède et qui est un véritable trésor.
Autour de la question comment apprivoiser la lumière, comment piéger les atomes, quête de toute votre vie de chercheur, Claude Cohen-Tanoudji, je vous pose tout de suite un nouvel éclairage, ou plutôt une nouvelle question soulevée par un autre éminent physicien qui est aussi philosophe des sciences et que vous allez retrouver, je crois, en janvier prochain à la radio sur France Culture. Il s'appelle Étienne Klein et il vous interroge sur RFI.
Bonjour Claude, je n'ai pas encore lu ton livre, mais je vais bientôt le faire. Tu as passé ta vie de scientifique à étudier la lumière. Et je voulais savoir si pour toi, la question de la lumière est une question résolue, ou est-ce qu'il y a encore, à propos de ce qu'elle représente et des effets qu'elle peut produire, des choses qui, pour toi, sont encore dans l'ombre ?
Votre réponse, Claude Cohen-Tanoudji. Vous avez compris beaucoup de choses sur la lumière, mais...
Je pense qu'on a déjà compris beaucoup de choses sur la lumière, mais je suis sûr qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à comprendre. Ce qui est merveilleux dans la recherche, c'est que chaque fois qu'on fait un progrès, on a compris des choses, mais on se pose de nouvelles questions et on essaie d'aller plus loin.
Quelles questions vous poseriez aujourd'hui sur la lumière, Claude Cohen-Tanoudji, et que vous pourriez nous faire partager à notre niveau?
Oui, non, mais par exemple, moi, je dirais qu'il y a quand même un autre domaine de la physique qui est fascinant, qui est la cosmologie. Actuellement, nous recevons des ondes qui ont été émises au moment du Big Bang initial. Et ce rayonnement cosmologique, on peut l'étudier, le mesurer, en faire une image. Et je trouve que c'est fantastique d'avoir une image de ce qu'était l'univers quelques moments après sa création, après le Big Bang. Donc ça aussi, ce sont des questions fabuleuses.
Donc si Claude Cohen-Tanoudji devait aujourd'hui repartir sur d'autres recherches ou refaire une carrière de chercheur, vous iriez du côté de la cosmologie, l'astrophysique.
La cosmologie est quelque chose de fascinant, parce que ça pose des questions de le début de l'univers. D'où sortons-nous? D'où venons-nous? Et je parle bien sûr, un autre domaine passionnant, c'est la biologie. Qu'est-ce que l'intelligence? Comment fonctionne le cerveau? Qu'est-ce que la pensée? Donc, toutes ces questions sont des questions fabuleuses, fascinantes.
Questions innombrables, fascinantes aujourd'hui. Quelles questions vous vous posiez, jeune étudiant, élève d'Alfred Kastner, de Jean Brossel? Quelles questions vous vous posiez sur la lumière, sur la matière, sur les atomes? C'était quoi vos questions?
Mais les questions, c'était de comprendre comment la lumière interagissait avec les atomes. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'électrodynamique. Comment les atomes absorbent de la lumière, comment ils l'émettent? Et en observant cette lumière émise par les atomes, qu'est-ce qu'on peut savoir sur les atomes qui émettent cette lumière? Et en particulier, le fait que les fréquences de la lumière émise sont discrètes, c'est ce qui révèle la nature quantique de l'atome. Ça révèle le fait que l'énergie d'un atome ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, elle prend des valeurs bien définies. Et l'émission de lumière correspond au passage de l'atome d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie plus bas. Et la fréquence est donc parfaitement définie.
Voilà pourquoi vous avez eu l'idée de refroidir. Alors, là, je vais peut-être
une deuxième étape.
D'accord.
Une fois qu'on a compris comment les atomes émettent de la lumière et comment la lumière permet d'obtenir des informations sur les atomes, on peut se poser une question plus vaste. Est-ce qu'on peut utiliser la lumière pour agir sur les atomes, pour les manipuler, pour les contrôler, pour contrôler leur énergie, pour contrôler leur vitesse, pour contrôler leur état de rotation, leur moment cinétique? Et tout cet aspect manipulation des atomes par la lumière, c'est le domaine dans lequel je vais travailler. Kassler avait commencé par échanger du moment cinétique de photons polarisés à des atomes, et c'est là l'idée du pompage optique qui permet d'obtenir des atomes polarisés.
C'est ce qui lui a valu le prix
Nobel.
Hein.
Qui tournent tous dans le même sens. Alors ça aussi, c'est des problèmes fondamentaux, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça a des applications fabuleuses. C'est la résonance magnétique. Et par exemple, c'est l'IRM. Tout le monde maintenant entend parler de l'IRM. Tout le monde a subi plus ou moins dans sa vie des IRM. Voilà une application du pompage optique qui était imprévue au début. Et alors, si on change la vitesse des atomes en les poussant par la lumière, on peut les immobiliser, les refroidir, et ça, c'est le refroidissement laser.
Voilà pourquoi vous avez imaginé le refroidissement laser, l'utilisation
c'était,
du laser.
Oui, c'était la manière d'utiliser la lumière pour contrôler l'état de mouvement, la vitesse des atomes. Et ça aussi, il faut le comprendre, voir quelles sont les limites ultimes, et ça a des applications. Parce que quand un atome est très froid, on peut faire des mesures très précises sur lui. On peut, par exemple, améliorer le système GPS. Voilà une autre application qui n'était pas prévue au début.
Vous n'avez pas travaillé pour ces applications-là. Non, vous travaillez pour répondre à des questions fondamentales. Hein.
C'est ce que j'essaie de plaider auprès des politiques, auprès des administratifs, montrer que la recherche, avant tout, c'est une aventure fondamentale. C'est une recherche fondamentale. Et les applications viennent après. On ne peut pas planifier la recherche sur les applications. Il faut laisser les gens imaginatifs travailler librement. Et en général, ils font des choses intéressantes et ces choses intéressantes donnent naissance à des applications.
On espère que vous êtes entendu, Claude Cohen-Tanoudji, sur RFI, autour de cette question de la lumière. On propose maintenant un autre éclairage, alors musical. Celui-ci, c'est de notre choix et c'est pour vous, Camille, qui chante la lumière.
Cette lumière juste au-dessus de moi, c'est quoi? C'est quoi cette lumière là par-dessus les toits? Par quel mystère tient-elle? Qui l'a mise là? C'est quoi cette lumière? Oh,
mystère, Camille, sur RFI. Autour de la question pourquoi et comment apprivoiser la lumière, nous sommes en compagnie du prix Nobel de physique Claude Cohen-Tanoudji, formidable transmetteur de savoir qui partage avec nous, sous le signe de la lumière, son itinéraire de physicien dans un monde quantique. C'est le titre de votre ouvrage, cher Claude, dont nous avons, et je sais que ça vous fait plaisir, un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs qui êtes loin d'ici, qui n'avaient pas toujours accès au savoir, on va y venir. Mais d'abord, autour de ce monde quantique qui passionne aussi précisément nos auditeurs, une nouvelle question pour vous, Claude Cohen-Tanoudji, soulevée par un autre éminent physicien quantique, Carlo Rovelli, inventeur avec l'Ismoline de la théorie de la gravitation quantique à boucle. Écoutez sa question, elle est pour vous.
Bonjour Claude, vous avez passé votre vie immergée dans la mécanique quantique. Les gens se bagarrent encore sur ce que la mécanique quantique signifie. Est-ce que vous pensez que tout est clair là ou que nous sommes encore dans le mystère sur ce que la mécanique quantique nous dit du monde ?
Quelle est votre position, Claude Cohen-Tanoudji ?
Je pense que nous avons encore des choses à comprendre sur la mécanique quantique. Et un de mes amis et collègues avec qui on a justement écrit le livre de mécanique quantique a écrit d'autres livres dont le titre est « Comprenons-nous vraiment la mécanique quantique ?» Si vous voulez, les concepts quantiques sont tellement étonnants, tellement troublants, tellement différents de nos concepts traditionnels habituels que je pense que ce n'est pas fini. Il y a encore des choses à comprendre.
Alors, citons d'ailleurs qu'avec ce collègue dont vous parlez, physicien, vous êtes l'auteur, Claude Cohen-Tanoudji, de manuel, le troisième volume de mécanique quantique vient de paraître. Oui. Pour la plupart des étudiants en physique que l'on croit, si l'on dit votre nom, tout de suite, ils pensent le Claude Cohen-Tanoudji, cet ouvrage de mécanique quantique.
Oui, bien entendu.
Exactement. On rappelle, évidemment. Oui. Évidemment, vous n'êtes jamais tout seul à faire vos travaux et vos recherches, mais c'est quand même c'est un monument aujourd'hui. Donc, malgré tout, vous avez compris des choses et des bases qui restent. Vous réévaluez aujourd'hui, mais vous avez compris, vous avez éclairé ce monde quantique.
On a compris des tas de choses, mais je veux dire que l'aventure n'est pas terminée. Mmh. Je crois que vous avez parlé de, justement, la personne qui m'interroge, Carlo Rovelli, qui s'intéresse à la gravitation. Il reste encore un problème essentiel à résoudre, qui est d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale, la théorie de la gravitation. Donc, vous voyez bien que la science n'est jamais terminée. Toute nouvelle découverte conduit à se poser des nouvelles questions et incite à explorer des nouveaux domaines. Alors, c'est ça qui est excitant, c'est ça qui est fabuleux.
C'est ça, vous avez les yeux qui brillent quand vous en parlez de toute façon, Claude Cohen-Tanoudji. Mais justement, comment est-ce que vous pourriez faire passer à nos auditeurs qui sont... On est tous très friands, on a bien compris qu'il se passait quelque chose dans ce monde quantique, donc on est dans l'infiniment petit, qui ne nous touche pas, nous, à notre échelle. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde quantique qui est tellement bouleversant, étonnant, déstabilisant
Peut-être que je voudrais donner juste un exemple. Un exemple de problème qu'on peut se poser et qui est tout à fait troublant, c'est que en physique quantique, un objet, par exemple, une particule, peut être en même temps à tel endroit et à tel autre. Et non pas à tel endroit ou à tel autre. Il peut être en même temps à deux endroits différents. C'est ce qu'on appelle les superpositions d'états. Et ça aussi, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à admettre. Alors, si on pousse encore le paradoxe plus loin, c'est ce qu'a fait Schrödinger, il y a l'état vivant et l'état mort. Un chat peut être à la fois vivant et mort. C'est le fameux chat de Schrödinger.
Chat de Schrödinger, oui.
Alors, évidemment, ces situations étonnantes sont extrêmement peu probables à l'échelle macroscopique. Mais à l'échelle microscopique, un photon peut être en un endroit et en même temps à un autre endroit. De même, une particule, un électron, peut-être à un endroit, à un autre endroit. C'est pour ça qu'il peut passer par deux trous à la fois et donner naissance à des phénomènes d'interférence.
Donc ça, c'est une notion quantique qui existe donc à l'état totalement microscopique, dans l'infiniment petit, on peut être vivant et mort, on peut être à un endroit et à un autre en même temps. Enfin, j'exagère un peu.
Elle donne naissance à des effets observables. Alors, plus on monte dans la complexité du système, plus il devient macroscopique, moins la probabilité d'un tel effet peut être importante pour se produire. Donc, il y a toujours des phénomènes de ce qu'on appelle de décohérence qui démolissent ces superpositions d'états. Mais il n'empêche qu'ils existent. Ces phénomènes existent et que c'est ça qui fait le mystère de la physique quantique. Et c'est ça qui fait que peut-être dans l'information quantique, des nouveaux systèmes pourraient apparaître dans le futur permettant
de traiter les formations. On parle d'ordinateurs quantiques. Voilà, bon, là, c'est un trop. Peu... Voilà,
c'est
voilà.
Encore peut-être plus loin, mais déjà, il y a des réalisations en information quantique qui reposent un petit peu sur ces idées de superposition d'états et qui donnent naissance à des possibilités complètement nouvelles.
Vous, vous dites, ça, vous l'avez compris, vous l'observez à l'échelle microscopique dans votre cerveau, Claude Guéant-Tanoudji. Vous l'avez compris, vous l'avez intégré, ça change quelque chose dans votre vision du monde?
Ça change quelque chose quand j'essaie d'analyser un phénomène à l'échelle microscopique, à l'échelle atomique. Évidemment, ça ne perturbe pas mais ma notion macroscopique des événements et du monde dans lequel
on
vit.
Oui, c'est ça. Nous,
jours.
On n'est que dans un seul endroit à la fois, on est grand comme nous.
Mais en fait, on est obligé d'admettre ces choses-là. De telles superpositions d'états existent à l'échelle microscopique. Elles donnent naissance à des effets observables.
Mais ça implique quand même, enfin pour nous humains, même si on l'a bien compris, ça ne se passe pas à notre niveau, à notre niveau macroscopique, malgré tout pour une réflexion philosophique, existentielle, il y a quelque chose qui change quand même fondamentalement.
Oui, ça change fondamentalement, mais c'est la situation.
Et quand vous l'avez découvert, observé, vous avez travaillé dessus, est-ce qu'on est toujours aussi sidéré ou en tant que physicien dans un monde quantique, on s'habitue à cette sidération?
C'est toujours un émerveillement, mais petit à petit, on prend confiance et on arrive à utiliser ces superpositions d'états, on arrive à les décrire quantiquement, à faire des prédictions précises sur eux et observer les effets auxquels ils donnent naissance.
Autour de la question de notre monde quantique, nouvelle interrogation pour vous, soulevée par un autre éminent astrophysicien. Ils ont tous accepté de vous poser une question, lui aussi créatif et partageur, c'est Jean-Pierre Luminet qui vous interroge.
Bon, j'ai une question à poser à Claude, dont j'ai dévoré quand j'étais étudiant l'extraordinaire monographie de physique quantique, où on apprend tout. Et après toutes ces décennies passées, effectivement, ce parcours de vie dans la physique quantique, la physique quantique elle-même, elle a beaucoup évolué, avancé, à la fois dans certains progrès expérimentaux. On pense évidemment aux expériences sur la non-séparabilité, l'intrication quantique, qui paraissaient au début des choses extrêmement lointaines sur le plan de l'expérimentation et qui maintenant se concrétisent. Ça a aussi un petit peu changé, évolué peut-être dans certaines interprétations philosophiques de la physique quantique qui valent ce qu'elles valent. Et donc, j'aimerais demander à Claude ce qu'il pense de cette évolution et comment il a vécu cette évolution et s'il y a des options que lui privilégie, sans doute par rapport à d'autres.
Que pouvez-vous nous répondre à Jean-Pierre Luminet, Claude Guéant-Tanoudji?
Je pense qu'il est toujours légitime de se poser des questions et d'essayer de comprendre en profondeur et de manière plus satisfaisante ces paradoxes quantiques auquel la théorie nous conduit. Mais ceci dit, je pense que la seule réponse qui peut être donnée, c'est une réponse expérimentale. Mm-hmm. Si on fait des hypothèses, si on élabore un schéma conceptuel pour essayer d'intégrer ces phénomènes dans un cadre conceptuel donné, on doit en même temps être capable de prédire des expériences permettant de mettre en évidence ces phénomènes troublants. Et la seule réponse est une réponse expérimentale. Est-ce qu'on est capable d'observer de tels phénomènes? Oui ou non? Et la réponse est donnée par l'expérience.
C'est ça. Donc il faut continuer, poursuivre les expériences.
Il faut continuer à poursuivre les expériences, à pousser les limites de nos observations.
Mais vous les poussez, parce qu'on les pousse dans des grands accélérateurs de particules, on les pousse dans des grandes machines. Vous les avez poursuivis et d'autres chercheurs comme vous les continuent à les poursuivre, dans un laboratoire modeste lui aussi. Enfin, avec d'énormes machines. Mais il faut tout expérimenter, c'est ça que vous pensez?
Je pense effectivement que vous faites allusion aux grandes machines. Mmh. Elles sont fondamentales pour explorer la composition, la structure des particules élémentaires. C'est de comprendre un petit peu le monde des particules. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il y a des expériences à plus basse énergie qui permettent aussi de se poser des questions fondamentales et auxquelles il est possible d'apporter des réponses précises. Donc ça aussi, c'est une des merveilles de la physique atomique et moléculaire, de permettre à basse énergie d'observer des phénomènes extrêmement bizarres, troublants, et qui portent un nouvel éclairage sur la mécanique quantique.
C'est ce que vous avez fait, c'est ce qui vous a valu le prix Nobel. Tiens, justement, vous consacrez un petit chapitre avec toute la modestie qui vous caractérise, Claude Guéant-Tanoudji. Comment vous l'avez appris? Comment vous avez reçu ce prix Nobel là pour vos travaux sur le refroidissement? On vous a appelé le grand refroidisseur d'atomes.
Oui. Il y avait déjà beaucoup de chercheurs qui travaillaient dans le monde sur dans ce domaine. Et je raconte dans le livre qu'un jour, on travaillait chez moi. Et puis, un coup de téléphone, à 11h du matin, et puis au bout du fil, c'est le président du comité Nobel de physique qui m'apprend que j'ai le prix Nobel. Donc, très grande émotion. Jacqueline, ma femme qui est à côté, ne peut pas retenir ses larmes. On essaye d'appeler nos enfants pour leur annoncer les nouvelles, mais au téléphone, ils n'étaient pas sur place, donc on n'a pas pu les joindre. J'ai essayé d'aller au laboratoire, je n'ai pas pu sortir de la maison, mais déjà les journalistes
et oui, c'est
en bas.
Ça.
Donc ça a été vraiment une grande joie, une grande perturbation aussi. Parce que d'un coup, sont arrivées les demandes d'interview. Et disons, ça fait maintenant 22 ans que ça s'est passé. Et je continue à être submergé d'invitations, de demandes, d'écrire, des lettres, des rapports. Et ça, le prix Nobel est une immense joie, mais en même temps une source considérable de perturbations. Je me souviens
pour
aussi
vous,
de mon maître, Alfred Kastler, qui... Et lui aussi était très fatigué par toutes les demandes qu'il recevait.
Comme Alfred Kastler, comme aussi Serge Arros qui vous a succédé, vous n'aimez pas tellement vous mettre en avant. Enfin, c'est pas pour ça.
Non, c'est pas pour ça qu'on travaille.
Voilà. Et puis, vous le dites vous-même dans ce livre, il y avait très peu de chances au départ que vous soyez prix Nobel. Donc, c'est comme si, à la fois, c'était une charge que vous méritez amplement, mais que vous restez, toujours surpris, finalement.
Oui, non, mais je pense qu'on attribue... peut-être une importance exagérée au prix Nobel. Il y a beaucoup de physiciens, beaucoup de chimistes, beaucoup de scientifiques à qui on pourrait demander des interviews ou qui pourraient en parler aussi bien. Et je pense qu'il y a une focalisation sur le prix Nobel parce qu'il a une aura, un prestige considérable. Mais je pense que c'est un peu exagéré.
Votre livre « Sous le signe de la lumière, itinéraire d'un physicien dans un monde quantique » paru aux éditions Odile Jacob, votre livre, Claude Cohen-Tanoudji, nous vous l'offrons, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. Et je sais que ça vous fait plaisir, Claude Cohen-Tanoudji, parce que vous avez évoqué votre femme, Jacqueline, à l'instant, mais elle aussi, avec elle, vous avez pendant des années dans une association qui s'appelle les Piroguiers, oui. Et vous continuez d'ailleurs, où vous pouvez envoyer des livres sur le continent africain.
Je pense que l'un et l'autre, nous sommes extrêmement concernés par les problèmes d'enseignement. Nous pensons que l'enseignement est quelque chose de fondamental, surtout dans l'époque actuelle où on voit tant de fondamentalisme, de fanatisme, d'extrémisme. Je pense que l'enseignement, à tous les niveaux, au niveau des écoles primaires, des lycées, des universités, est le seul espoir d'arriver à un monde meilleur. Bon, et nous faisons ce que nous pouvons. Nous sommes tous les deux enseignants. Jacqueline au lycée, moi j'étais à l'université, au Collège de France. Et nous avons été passionnés par notre métier. Et nous pensons que notre devoir aussi, c'est d'aider les pays en développement à développer leur enseignement. Et pendant de nombreuses années, ma femme Jacqueline a fait partie d'une association qui s'appelle les Piroguiers. Et dont le but était de ramasser les livres qui deviennent disponibles lors d'un changement des programmes dans les écoles, et d'envoyer ces livres en Afrique pour aider les écoles à disposer du matériel pédagogique pour assurer un enseignement efficace. Alors, pour les envoyer, il faut de l'argent. Et alors, il y avait les gens de l'association allaient en Afrique, ramener des objets d'artisanat, les vendaient, et avec l'argent gagné, ils pouvaient expédier ces livres. Et même, il y avait des fois de l'argent en plus qui permettait de construire des écoles. Et ça aussi, c'est fabuleux. Je me souviens d'être allé une fois avec Jacqueline au Burkina Faso, parce que les pays au début qui étaient concernés par cette association, c'était le Mali, le Burkina Faso, le Togo. Bon, maintenant, c'est plus difficile parce qu'il y a
il y a des conflits sur place, c'est plus compliqué pour y aller.
Des enlèvements, mais on continue, ça continue un petit peu. Et aller au Burkina Faso et voir une école avec le nom de l'Association des Piroguiers, je trouvais ça très émouvant. J'ai parlé aussi aux jeunes enfants, de raconter un petit peu ce qu'était la science et de voir les yeux briller dans ces jeunes enfants, c'était aussi quelque chose de très émouvant.
On aura envie pour saluer de l'autre côté de la vitre tous les jeunes stagiaires, filles en plus de troisième, qui nous écoutent et qui vous écoutent. Sous le signe de la lumière, Claude Cohen-Talouji, sous le signe de la lumière de votre Algérie natale. Allez, en clin d'œil aux petits garçons des rues de Constantine et puis ensuite d'Alger, qui n'auraient jamais osé se rêver prix Nobel de physique. Je vous propose d'écouter une des plus grandes voix de cette culture judéo-algérienne, la chanteuse et compositrice Renette Loranaise sur RFI.
Vous écoutez RFI autour de la question.
فيك نحبك 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 وانا مهتالي يا اللي تطلب نعطيك وانا عمري بين يدي نعشق فيك يا بنية على شدي عليا ليلة تسكر معايا ونهرب على والدي نحبك 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 ونموت علي يا اللي تطلب نعطي وانا عمري بين يدي
Renette Loranaise, une des plus grandes voix de la chanson judéo-algérienne sur RFI.
Si vous permettez, je voudrais évoquer aussi à ce sujet un autre chanteur qui était extrêmement populaire en Algérie, en particulier mes parents l'adoraient, c'était Raymond. Raymond Léris, je crois,
oui.
qui avait une popularité absolument, ce qui était une merveilleuse voix et qui chantait des belles chansons.
Judéo-arabe, rien que pour ça. On avait envie de vous les faire entendre. Merci en tout cas pour vous remercier d'être avec nous en direct sur RFI. Claude Cohen-Talouji, le prix Nobel de physique que vous êtes devenu. On s'en rend compte, ne renie absolument pas ses origines, bien au contraire. Et ce sont peut-être aussi ses origines, ces années difficiles, en Deuxième Guerre mondiale en Algérie, et puis l'expérience de l'exil, des migrations, qui vous a rendu, je ne sais pas, aussi sensible au sort des chercheurs menacés de par le monde. Vous avez été notamment président du CADOS, c'est le comité de défense des hommes de science. Vous êtes aujourd'hui membre du comité de parrainage du programme PAUSE du Collège de France pour l'accueil des scientifiques forcés à l'exil. Oula, voilà, pour les scientifiques forcés à l'exil. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'agronome syrien Sami Youssef, qui est aujourd'hui accueilli par l'Université de Montpellier en France, où il mène désormais ses recherches. On l'écoute.
Grâce à ce programme, maintenant, j'arrive à poursuivre mes recherches. J'ai repris le sens et, on va dire, le goût de recontinuer. C'est pas une pause. C'est plutôt il va aider les gens d'aller en avant pour continuer leur recherche et sauver des idées, surtout scientifiques, et sauver des vies aussi.
Sauver des idées scientifiques, sauver des vies, ça vous parle évidemment, Claude Cohen-Talouji.
C'est évident. C'est un devoir.
C'est un devoir de chercheur, c'est un devoir, une responsabilité de prix Nobel aussi, humaine tout simplement.
Humaine, tout simplement.
Et vous êtes, vous le dites, hein, vous êtes un fils de l'école de la République aussi. C'est vraiment quelque chose qui, que vous voulez nous transmettre, nous faire passer.
Je pense que c'est fondamental. L'école de la République, c'est ce qui permet de sortir de l'ignorance et d'acquérir des valeurs essentielles pour conduire sa vie et pour acquérir des connaissances importantes pour se conduire dans la vie, conduire de manière digne.
C'est quoi vos valeurs ? C'est vos valeurs à vous,
C'est la reconnaissance des autres, c'est l'absence de fanatisme, c'est au contraire l'envie d'aider les autres, de leur transmettre les valeurs qu'on a acquises. C'est l'enseignement, la transmission, comme vous l'avez dit.
On y revient. Puisque vous êtes engagé dans la transmission, nous avons encore un petit cadeau sonore pour vous. C'est l'extrait d'un reportage réalisé dans une école primaire de Seine-Saint-Denis par notre reporter Jérémy Bazar, autour de la question de la lumière et des travaux qui vous ont valu le prix Nobel, à vous, Claude Cohen-Tanoudji, et puis également à votre élève Serge Haroche. Écoutez les questions que cela a suscité dans la tête de tous ces petits élèves de CE2.
Pourquoi la lumière va vite? Comment nous voyons les photons? Pourquoi en une seconde la lumière elle fait le tour du monde? Pourquoi le miroir après ça reflète dans la lumière puis après ça met de la lumière dans le plafond?
Comment la lumière a existé?
Ça s'appelle comment celui qui a inventé la lumière?
Comment on peut attraper les photons?
Et voilà, c'était des questions pour vous, Claude Cohen-Tanoudji.
C'est des questions superbes, oui.
Mais c'est ça, comment attraper des photons? Comment il s'appelle celui qui a inventé la lumière? Extraordinaire.
Oui, mais oui, quelle est l'origine de la lumière?
C'est une vraie question.
C'est une vraie question qui a traversé toute l'histoire de l'humanité. Qu'on vit l'histoire de la lumière, comment les concepts sont apparus, Newton, Galilée, enfin tout. C'est une immense histoire. Et la description que nous avons en ce moment de la lumière ne s'est pas faite toute seule. Elle a été l'effort de générations de scientifiques.
C'est ça.
Plusieurs générations.
Et on en revient à cette question de la transmission. C'est des nains sur les épaules. Enfin, chacun est un nain sur les épaules des géants. Vous êtes un peu plus grand que nous, disons.
Oui. Mais c'est ça qui est fabuleux dans la science. On se pose des questions. Et les questions posées par les tout jeunes enfants, c'est des questions fondamentales. Parce qu'elles sont débarrassées de tout artefact, de toute chose inutile, elle touche vraiment au cœur des phénomènes. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Comment elle sort? Comment on peut l'attraper? Ça, c'est des questions magnifiques et auxquelles il n'est pas facile de répondre. Il faut faire des générations de scientifiques pour arriver à une description plus satisfaisante de la lumière.
Et vous diriez, vous, Claude Cohen-Tanoudji, aujourd'hui, hein, que vous avez réussi à garder intactes ces questions-là, enfin cette curiosité-là. Comment vous diriez ça?
Moi, je pense que ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir garder cette curiosité, cette naïveté, cet étonnement permanent, cette envie d'en savoir plus.
Et vous avez une recette pour ça? Parce que j'ai l'impression que c'est ce dont on manque terriblement. Moi, quand j'ai lu votre livre, ça me remet de bonne humeur, ça me redonne de l'espoir pour la connaissance, pour effectivement le partage avec les autres, la transmission, cette filiation incroyable de prix Nobel de physique. Enfin, tout ça donne... Oui, plus tous les mystères, plus toutes les questions qui restent sans réponse, tout ça, moi en tout cas, m'a donné de l'énergie et du courage. Comment on pourrait aujourd'hui susciter ça? On en a tellement besoin.
Mais on en revient toujours au même point, c'est l'enseignement. Il faut essayer de développer l'enseignement, essayer de former des enseignants capables d'émerveiller les jeunes d'esprit, de leur montrer que le monde est extraordinaire, qu'il y a des mystères incroyables et de leur donner envie d'en savoir plus. C'est l'envie d'en savoir plus qui est à la base de tout progrès.
C'est votre moteur aussi, l'envie d'en savoir
aussi,
plus.
C'est mon moteur aussi, bien sûr. C'est d'être fasciné par une théorie nouvelle qui apparaît, qui pose des nouveaux jalons et puis qui pose des nouvelles questions.
Et comment on fait justement? Parce que je me demande aussi comment, à l'origine, vous avez commencé ces travaux. Vous le dites vous-même, le mécanique quantique, puisque vous êtes un des initiateurs de la mécanique, de la compréhension.
Je ne dirais pas ça. La mécanique quantique existait déjà.
Bien sûr, de passeur de mécanique quantique,
vraiment
de transmetteur de ça, à travers vos ouvrages notamment. Quand on fait des recherches sur un monde qui est tout nouveau, qui s'ouvre, qu'on creuse en même temps que on fait ces recherches. Est-ce qu'il faut avoir un esprit particulièrement ouvert pour ça? Est-ce qu'il faut accepter de se dire peut-être que je cherche et que ça ne mènera à rien?
Je pense que le mécanisme de l'enseignement, c'est qu'on est soi-même interpellé. On ne comprend pas, il y a des choses bizarres qui apparaissent. Et puis petit à petit, on s'habitue, on, on arrive à comprendre, à dégager quelques idées directrices. Alors le plus grand plaisir à ce moment-là, c'est d'essayer de les expliquer aux autres, d'essayer de transmettre aux autres cette idée qu'on a, cette représentation des phénomènes qu'on a réussi à bâtir. Et si on se rend compte que ça a évoqué chez les gens à qui on parle des idées nouvelles, un émerveillement, ça c'est le plus grand plaisir qu'on puisse avoir.
Donc vous, finalement, si je comprends bien le prix Nobel de votre maître, Alfred Kastler, ensuite le vôtre, c'est peut-être celui de Serge Haroche, oui. Votre élève, votre premier élève de thèse, qui vous a au fond nourri, parce que ça voulait dire que vous avez éveillé ce qu'il fallait.
Bien sûr, c'est ça le plaisir, c'est le plaisir de susciter de l'émerveillement chez les autres, l'envie d'en savoir plus.
Et des regrets, vous avez des regrets, j'imagine, Claude Cohen-Tanoggio.
Ben, on est toujours regret de n'en pas avoir fait plus, davantage, qu'on n'a pas... On va arriver le terme de sa vie, on a encore des tas de questions qu'on aimerait aborder.
Oui, vous n'avez pas fini, vous pouvez encore...
Pas fini, mais... quand même, la vie est finie.
Pas encore,
oui,
pas encore.
Oui, encore oui.
Pas encore. Une envie, justement, un rêve encore, une... quelque chose là à creuser, là, maintenant. Je suis sûre que vous continuez, vous continuez oui. à réfléchir, ça se
mais
voit
je,
et ça s'entend.
Je n'enseigne plus maintenant. Je trouve que ça me manque un peu. Ça me manque un peu de... Mais bon, il faut savoir s'arrêter aussi. Il faut savoir se rendre compte qu'on est atteint... On n'a plus l'énergie, la capacité d'être aussi efficace.
En tout cas, moi, je m'arrête sur votre phrase de conclusion que vous avez prise au regretter. Michel Serres, la meilleure manière de préserver et d'honorer ce que nous avons reçu, c'est de le transmettre aux nouvelles générations. Mission accomplie. Merci infiniment, Claude Cohen-Tanoggio.
Merci. Merci, Caroline.
Merci d'être venu partager avec tant de chaleur le refroidissement des atomes. Et qui, d'ailleurs, ce qui vous a valu le prix Nobel de physique. Je rappelle le titre de votre ouvrage. On l'a dit particulièrement inspirant et dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner si vous nous demandez par mail ou sur notre page Facebook sous le signe de la lumière. Très joli titre. Sous-titré Itinéraire d'un physicien dans un monde quantique. Merci pour votre générosité, Claude Cohen-Tanoggio. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci pour votre interactivité et pour votre curiosité, chers amis auditeurs. Rendez-vous demain, même heure, même onde, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour une autre émission exceptionnelle en Éthiopie, sur les traces du plus ancien ancêtre de l'humanité, Australopithecus anamensis, dont le crâne presque complet a été découvert, analysé et daté par une équipe de chercheurs éthiopiens. À creuser demain avec Vincent Dublanche, notre correspondant à Addis Abeba. D'ici là, portez-vous bien, surtout garder l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.
Priorité santé. Caroline.